les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1951, sur la chaîne nationale, Pierre-Jean Jouve proposait une série de trois émissions intitulée « Folie et génie ». La première proposait un portrait du poète italien Torquato Tasso, la troisième s'intéressait à Gérard de Nerval et c'était à Friedrich Hölderlin qu'était consacré le deuxième volet de cette série. Lui-même, traducteur avec Pierre Klossowski des poèmes de la folie, Pierre-Jean Jouve proposait 40 minutes en compagnie du poète allemand que le psychanalyste Jean Laplanche devait coucher sur son divan plus d'un siècle après sa mort. Avait-il trouvé les clés de la folie du génial Hölderlin que d'autres avant lui et après lui ont essayé de découvrir? Cette folie, sans l'élucider, Pierre-Jean Jouve nous la raconte ici, notamment à travers le récit qu'a laissé Wilhelm Weiblinger de la visite qu'il rendit en 1822 à Hölderlin, cloîtré dans la maison du menuisier Zimmer de Tübingen.
Folie et génie, trois émissions par Pierre-Jean Jouve. Le Taz, Hölderlin, Gérard de Nerval. Deuxième émission, Hölderlin. Musique de cette émission, œuvre de Mozart, Béla Bartók.
Hölderlin. Hölderlin offre sans doute le cas le plus essentiel de la folie dans un poète. Non seulement parce que, pendant les 10 ans de son activité lucide, il est un des plus grands poètes de l'Allemagne, mais parce que, après 7 ans de crise et d'internement momentané, il survit à sa propre forme pendant 36 ans de démence, écrivant encore des choses mystérieusement admirables. Friedrich Hölderlin est né en 1770 à Laufen am Neckar, d'un père pasteur qui mourut lorsque l'enfant avait 2 ans. Élevé uniquement sous la direction des femmes, il se laisse orienter vers la carrière de pasteur, mais dès l'âge de 16 ans, il fait ses premiers essais poétiques et il noue ses premières amours. En 1790, au séminaire de Tübingen, Hölderlin est magistère en philosophie, mais la théologie lui est tout à fait étrangère et il se sent constamment malheureux. Admis en 1793 à exercer le ministère évangélique, il éprouve pour ce ministère une aversion profonde et durable. Les premiers poèmes importants apparaissent. Hölderlin devient précepteur dans une famille où il a la charge d'un enfant difficile. Il a rencontré Hegel, il voit maintenant Goethe, Herder, Schiller à Iéna et à Weimar. Mais brusquement, il quitte Iéna, rompt toutes ses relations et revient chez sa mère. Par crainte du ministère évangélique, il accepte une nouvelle place de précepteur. En 1795, le voilà dans la maison du marchand Gontard à Francfort. Suzette Gontard est une jeune femme belle et admirée. Le précepteur devient amoureux. De son amour sort une passion partagée. La première année de cet amour, 1796, est la seule heureuse dans la vie de Hölderlin. Son œuvre énorme est sur le chantier. Suzette Gontard est appelée par lui Diotima, et sous ce nom consacré, elle va inspirer la poésie jusqu'à la mort. L'évolution fatale des passions adultères se produit. Conflits, contradictions intérieures, dangers extérieurs. Le marchand Gontard est averti. Après une scène violente, Hölderlin quitte la maison Gontard en automne 1697. Le trouble commence ici même. Réfugié chez son ami Sinclair, à Hambourg, Hölderlin échoue dans ses activités. Ses économies s'épuisent, il se nourrit à peine. Il rentre sans ressources en 1800 dans sa famille. Certaines altérations du caractère apparaissent dans le sein d'une faiblesse physique et intellectuelle. Ainsi, de grandes exaltations et la manifestation d'une joie sans cause. De Stuttgart, où se trouve un autre ami, Landauer, il est appelé comme précepteur à Hauptville en Suisse. Sur le simple vu de sa personne, il est remercié. Il retourne chez sa mère. Il fait en vain appel à Schiller. Déjà, sa capacité intellectuelle a diminué. Des maniérismes sont visibles dans son maintien, sa parole, son style. C'est en 1801 que son travail porte la marque d'une modification mentale profonde. Hölderlin part à Noël pour occuper sa dernière place de précepteur chez un consul hambourgeois à Bordeaux. Bordeaux sera la plaque tournante de l'existence du poète. Son passeport porte à Bordeaux le 10 mai, à Strasbourg le 16 juin. Il reparaît à Nürtingen chez sa mère avec les signes les plus visibles d'une maladie mentale. 15 jours plus tard, il apprend la nouvelle de la mort de Diotima. Il y a d'abord une poussée d'agitation furieuse et d'hallucination. Puis, Hölderlin peut prendre quelques travaux poétiques. On le place comme bibliothécaire à Hambourg. On le croit sur le chemin de la guérison et prenant seulement pour un temps comme Hamlet le masque de la folie. En 1806, c'est l'internement à Tübingen. Fureur et stupeur alternent, Hölderlin à la camisole de force. Et en 1807, il est possible de mettre le malade comme pensionnaire chez un artisan de Tübingen, le menuisier Zimmer. Hölderlin reste dans une petite chambre au-dessus d'une écart pendant le temps d'une vie, 36 ans. La période catatonique de la démentia précoce ou état schizophrénique est atteinte. Les manières sont d'une politesse exagérée, la volubilité est incessante, la tenue est sale. Il ne parle jamais des choses qui lui ont été proches. Il a la notion de son incapacité et en même temps un puissant sentiment de lui-même. Il forme des idées de grandeur qu'il reporte sur son interlocuteur. Les pensées sont stéréotypées. Le ton est enfantin, les réponses toujours négatives. De nombreux étrangers viennent chez Zimmer rendre visite au poète dément. Et Hölderlin meurt doucement en 1843 d'une congestion pulmonaire. Toute la question dramatique de Hölderlin, la plus pathétique qui puisse se poser, est celle-ci. Où est, dans le monde de poésie qu'il a laissé, la folie du poète? Un texte de Bernard Grotheusen, que je vais citer en partie, décrit ce drame uniquement sur le plan du contenu poétique, sur le plan de la pensée hölderlinienne. Ce monde était divin, et parce que divin sans Dieu. Le divin n'a pas de nom. Seuls en ont les dieux dont le nombre n'est pas tout à fait fixé et qui parfois changent de forme. L'existence est divine. Être ce qu'on est, c'est être divin. Tout est là, simple, en lui-même. Tout ce qui est ne demande donc qu'à être. L'homme seul, ne connaissant pas ses limites, ne sait où se fixer dans un monde où tout repose. Parfois pourtant, les dieux qui vivent dans une lumière sereine et ignorent les inquiétudes du demi-jour se prennent à l'aimer et même recherchent son amour, car la nostalgie du divin qui est le propre de l'homme leur reflète leur propre image projetée dans l'infini, et les inquiétudes de ceux qui les aiment éveillent en eux le sentiment de leur bonheur éternel. Dionysos a rejoint son frère, le Christ, qui a survécu à Dieu. Dieu est mort et le monde est seul. Tout est d'une beauté silencieuse qui fait penser à l'absent. L'âme demeure inquiète. Elle appelle son Dieu. Elle se sent captive. Devant elle, il y a l'infini. L'infini et le fini. Il semble à Hölderlin que toute son angoisse n'a d'autre origine que le conflit qui maintenant les divise. « Que cherches-tu ? » demande Diotima à Hyperion. « Ce n'est pas quelque chose qui est disparu il y a des années. On ne peut dire exactement quand cela fut et quand cela ne fut plus. Mais ce fut une fois, et c'est encore, c'est en toi, dit-elle. Or, c'est précisément de ne pouvoir le trouver qu'en lui-même qui fait sa grande souffrance. « Tu voudrais un monde, lui dit Diotima. C'est pourquoi tu as tout et tu n'as rien. » Il y eut un moment dans sa vie, poursuit Grotesen, où il croyait avoir trouvé ce monde. Le poète ne peut-il rencontrer dans l'être qu'il aime ce qu'il n'avait pu retrouver qu'en lui-même? Le monde est là, il a pris forme, tu es à moi, l'infini c'est toi, l'infini dans le fini. Le moi a trouvé le toi que le poète avait appelé vainement dans le silence du tout. Une voix a répondu à son amour. Désormais, l'âme n'est plus seule. Et ce fut sa grande erreur. La voix s'est tue, et le poète a connu les peurs de la solitude qui se sait et du silence qui s'écoute. Il découvrit alors un monde nouveau, le monde qui s'étend toujours plus loin, le monde du voyageur qui voit toute chose pour la première fois. Ce n'est plus son âme qui peut lui interpréter ce monde, et il se met à écouter des voix qui lui viennent du dehors. Mais comment se retrouver dans ce monde qui n'est plus le vôtre et dans lequel l'homme ne saurait demeurer? Parfois les sons et les images lui échappent et se troublent, ou plutôt son âme ne sait comment les rendre exactement telles qu'elles étaient et sans y mêler du sien. C'est dans ces moments qu'elle sent une profonde détresse, parce qu'elle a peur de perdre les images et de ne plus entendre les sons du moment qu'elle ne saura plus les fixer. Bernard Grotesen termine sur ces admirables phrases. C'est un enfant qui se souvient, mais il n'est guère donné à chacun de savoir ce que nous savions étant enfants et d'avoir en même temps la profonde sagesse de ceux qui ont fini de vivre. Cette songerie de Dieu, devenant par catastrophe intime, durcissement, muraille, gel intérieur et errance de l'état schizophrénique, tout cela porte en soi les marques de la vie métaphysique forme germanique du romantisme. Voilà pourquoi, entre la substance de sa vie créatrice saine et l'état dégradé de sa vie mentale malade, Hölderlin montre une unité troublante qui a fait nommer sa folie « folie par excellence ». Dans une remarquable étude sur un ouvrage de Karl Jaspers qui considère Hölderlin, Maurice Blanchot, après avoir écarté le langage inintéressant des thèses qui veulent, l'une, que le phénomène anormal dans le génie ne soit qu'un déficit du phénomène normal, thèse française, l'autre, que la maladie favorise le génie, Maurice Blanchot écrit « Ne doit-on pas plutôt s'approcher de l'énigme, chercher le point d'où l'on peut la voir sans la faire disparaître, où on la saisit dans sa pureté d'énigme, dans toute la clarté qu'elle oppose et qu'elle apporte à qui la regarde en face, avec le désir de l'interroger sans la troubler et de se laisser interroger par elle ?» Si de 1801 date le processus, comme le croit Jaspers, et de 1802 environ, l'état dont parle Schelling, Am Geist ganz zerrüttet, l'esprit complètement brisé. De 1801 à 1805, il écrit des œuvres souveraines qui expriment d'une manière inébranlable la maîtrise et la fidélité poétique. Toutefois, après 1805, la poésie lui prête une voix autre, où se font entendre non pas l'étrange et l'obscur, mais les sentiments les plus simples, dans la forme la plus régulière, et cela pendant les 40 ans que dura sa mort. L'état final de la maladie, écrit M. Blanchot, fut chez Hölderlin ce qu'il est chez les autres schizophrènes, avec cette différence que cette fin ne fut pas celle de n'importe quel malade, mais d'un malade qui s'était appelé Hölderlin. Pourquoi ce Hölderlin était-il en tout semblable aux autres fous, étranger à lui-même, étranger même à la forme poétique qui avait été la sienne, sauf sur ce point, que la poésie ne cessait de trouver en lui une voix juste et une entente vraie. M. Blanchot, montrant le doute dans les premières démarches de Hölderlin, sa conscience des obstacles et l'espèce de refuge que lui avait fourni le jeu des idées philosophiques, constate. Plus tard, dans la période que cerne la schizophrénie, ses incertitudes s'effacent. La conscience qui doute et qui souffre devient une puissance ferme et souveraine. Le solitaire en lui ne se soucie plus de sa solitude, car il demeure constamment dans le monde qu'il crée, un monde plus près du mythe où s'accomplit et s'exprime une expérience immédiate du sacré. Il semble que Hölderlin parle alors du divin selon l'expérience qui lui en a été imposée. Effectivement, les œuvres font alors allusion à la véhémence des dieux, au danger de l'acte poétique, à l'ardeur orageuse que le chanteur doit affronter debout et tête nue. Le premier aspect du mystère est donc celui-ci. En même temps que commence la maladie, apparaît dans l'œuvre un changement qui n'est pas étranger au but initial, qui apporte cependant quelque chose d'unique et d'exceptionnel, qui révèle une profondeur jamais encore entrevue. La conduite de la vie devient plus passionnée, plus inconditionnée, sans frein, plus naturelle, plus irrationnelle, démonique. M. Blanchot concède que le démonique doit être considéré en dehors de la psychose. Mais tout se passe comme si le démonique, qui chez l'homme saint est assourdi, réprimé par le souci d'un but, au début de ses maladies réussissait à accomplir une percée. On dirait que l'âme, remuée de fond en comble, dans ce bouleversement montre sa profondeur, mais quand s'achève l'ébranlement, tombe en ruine, devient le chaos, devient de pierre. Entendons un peu cette voix, dont Sinclair dit à Bettina von Arnim, l'écouter fait penser au mugissement du vent. Deux pièces de 1804, probablement. Dans la traduction française que j'ai signée il y a une vingtaine d'années avec Pierre Klossowski. Moitié de la vie. Suspendu avec des poires jaunes, rempli de roses sauvages, la terre sur le lac. Et vous, merveilleux signes ivres de baisers, trempez la tête dans l'eau sainte et sobre. Malheur à moi! Où les prendrai-je, moi, quand ce sera l'hiver, les roses? Où le miroir du soleil, avec les ombres de la terre, les murs s'élèvent sans parole et froid, et les enseignes grincent dans le vent? La récolte. Mûrs, les fruits sont plongés dans le feu, et cuits, éprouvés sur la terre, et il est une loi, que tout retourne en l'intérieur. Ainsi les serpents prophétiques qui rêvent aux collines du ciel, et il y a beaucoup, comme un fardeau de bois sur les épaules à conserver. Mauvais sont les chemins. Et même de travers, comme les chevaux s'en vont les prisonniers, éléments et vieux principes de la terre. Et toujours vers la dissolution va un désir, mais il y a beaucoup à conserver, et la fidélité nécessaire. Mais nous ne voulons en avant, en arrière, pas voir, et se laisser bercer comme dans un tremblant canot sur la mer. Nous pouvons à présent suivre M. Maurice Blanchot dans une spéculation plus intuitive qui rejoint somme toute la vision de Bernard Gruithuysen, rapportant la cause de l'accomplissement fatal au contenu de l'acte poétique, si l'on veut à son destin d'acte poétique. Hölderlin appartient à cela qu'il a accompli et découvert, et il peut avoir à en subir le sort redoutable. Cette notion place le pouvoir de déchirement et de catastrophe dans certaines valeurs de création. Ce mouvement n'est pas le sien propre, il est l'accomplissement même du vrai, qui, à un certain point et en dépit de lui, exige de sa raison personnelle qu'elle devienne la pure transparence impersonnelle d'où il n'est plus de retour. Nous nous éloignons ainsi de la psychiatrie et sans doute de M. Jaspers. Les grandes élégies montrent en effet le consentement nécessaire à la nuit, à l'égarement, à la déchirure, tout ceci placé dans la région mythique de la Grèce, au malheur d'errer entre des dieux qui ne sont plus et ceux qui ne sont pas encore, double absence, intimité du vide et de la détresse. Sa solitude est l'entente de l'avenir, l'isolement prophétique qui annonce le temps, qui fait le temps. Pourquoi ce destin? Pourquoi doit-il se perdre? Il faut le redire, ce n'est pas la démesure que les dieux punissent en l'homme qui se fait le médiateur. Ce n'est pas la punition d'une faute qui sanctionne sa ruine, mais le poète doit être ruiné pour qu'en lui et par lui la démesure du divin demeure mesure, commune mesure. Et cette destruction, cet effacement au sein de la parole est ce qui fait que celle-ci parle, qu'elle est le signe par excellence. Hölderlin le sait, il doit lui-même devenir un signe muet. Un signe, voilà ce que nous sommes, privés de sens, privés de douleur, et presque nous avons perdu la parole à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la pétrification mentale de Hölderlin va de pair avec la naissance d'une œuvre très belle, que l'on peut justement nommer, comme je l'ai fait jadis, poème de la folie de Hölderlin. En opposition avec les pièces de vastes proportions antérieures ou même postérieures à 1802, grands hymnes, strophes régulières, versets, vers libres, comme Menons Klagen Diotima, Stuttgart, Brot und Wein, Der Rhein, Patmos, ces poèmes surgis de la démence sont de courtes dimensions, soit qu'ils s'interrompent brusquement ou apparaissent pleins de trous comme une étoffe lacérée. Ce sont les fragments. Soit que, beaucoup plus tard, ils se montrent sous la forme prodigieusement inanimée d'un petit groupe de strophes en vers réguliers et rimés dont le sujet même, les saisons, est comme immuable. C'est la poésie des derniers temps, en tout point la plus extraordinaire. Les manuscrits sont des plus obscurs. Hölderlin écrivait parfois ses poèmes les uns sur les autres, deux pièces d'époque différentes sur la feuille de papier et les vers se mélangeant. Un certain nombre de pièces de la fin sont signées du nom étrange de Scardanelli, nom qu'il s'attribuait et portent des dates insensées, 1658, 1571 ou 1049. Mais d'abord, regardons le vivre chez Zimmer. Voici le récit d'une visite que lui fit le jeune Wilhelm Felbing lorsque, le 3 juillet 1822, il vint de Stuttgart à Tübingen pour voir Hölderlin, poète vénéré. Première visite de Weiblinger à Hölderlin. Aujourd'hui, en compagnie de Wurm, j'ai fait une visite à Hölderlin. Après avoir descendu un escalier en pierre étroit qui mène au Neckar, nous sommes tombés sur une petite place exiguë dont le fond est occupé par une maison bien construite. Un attirail de menuisiers devant la porte nous faisait comprendre que nous étions arrivés à destination. Déjà nous montions l'escalier quand une jeune fille, remarquablement belle, vint à notre rencontre et nous demanda chez qui nous voulions aller. Nous n'eûmes pas à lui répondre, car au milieu d'une petite chambre demi-circulaire, blanchie à la chaux et dépourvue de tout ornement, se tenait un homme, les mains fourrées dans les poches d'un pantalon dont la ceinture descendait sur les hanches, qui ne cessait de nous faire des compliments. La jeune fille chuchota, c'est lui. L'effrayante apparition m'avait bouleversé. Je m'approchai et lui tendis une lettre de recommandation que m'avaient donnée M. Haug, le conseiller Olic, et le contrôleur des finances, M. Feiser. Hölderlin appuya la main droite sur une commode près de la porte, laissant l'autre main dans sa poche. Sa chemise, passée n'importe comment, était toute mouillée par la transpiration. Il posa sur moi son regard plein de pensées, mais dont l'expression était si lamentable que le froid descendit dans la moelle de mes os. Et il disait, tourné vers moi, « Votre Majesté royale ». D'autres sons qu'il proférait étaient en partie inarticulés, en partie inintelligibles et mêlés de français. J'étais là comme un condamné. J'avais la langue raide, ma vue se troublait, un sentiment de terreur faisait tressaillir mon âme. Oh, avoir devant soi l'homme le plus génial, le plus doué, de la nature la plus grande et la plus riche, dans le plus terrible état de déchéance. Un esprit qui, il y a 20 ans, prodiguait avec une inexprimable magie la richesse de ses pensées et entraînait tout ce qu'il touchait dans la profondeur du tourbillon poétique, aujourd'hui incapable de formuler une seule idée claire, même à propos de la chose la plus indifférente. N'y avait-il pas là de quoi maudire Dieu ? Vourm était moins troublé que moi. Il lui demanda s'il connaissait le conseiller Olic, M. Haug. C'était un de ses bons amis. Hölderlin s'inclina, murmurant un flot de paroles incompréhensibles, d'où sortaient seulement ces mots, « Votre Majesté ». Puis il se mit de nouveau à parler français, nous regarda et nous fit des compliments. « Votre Majesté royale, c'est là une question à laquelle je ne peux, je ne dois pas vous donner de réponse. » Nous étions devenus muets. Mais la jeune fille nous fit comprendre par un signe qu'il ne fallait point cesser de parler. Nous restions figés sur le seuil de la porte ouverte. Alors il marmotta. « Je suis précisément sur le point de me faire catholique, votre majesté royale. » Wurm lui demanda s'il se réjouissait des récents événements en Grèce. Jadis, Hölderlin était épris de l'amour le plus enthousiaste pour la Grèce. Il recommença ses compliments et l'on entendit au milieu d'un torrent de mots insaisissables « Votre Majesté royale, c'est là une question à laquelle je ne dois, je ne peux pas vous donner de réponse. » Pendant toute la durée de notre visite, il ne dit qu'une chose raisonnable. Ce fut lorsque Wurm remarqua que de sa fenêtre, il avait une bien belle vue sur la campagne. « Oui, oui, Votre Majesté, très belle, très belle. » Après quoi, il se plaça au centre de la pièce et se mit à s'incliner devant nous, fléchissant le haut du corps et le relevant sans cesse et ne disant plus que « Votre Altesse royale, vos Altesses royales, etc. » Nous ne nous sentions pas la force de rester davantage, et après cette entrevue de 5 minutes, nous nous précipitions dans la chambre du menuisier. Là, nous nous fîmes raconter par la jolie et aimable fille et par sa mère toute l'histoire de Hölderlin depuis qu'il est entré chez elle. Voilà bientôt 16 ans qu'il est fou, et il va sur ses 50 ans. Il lui arrive par moments de retrouver un peu sa raison, et aussi, c'est moins fréquemment qu'il est pris de ces accès pendant lesquels il crise et se démène comme un possédé. Mais tout de même, ce n'est jamais comme ça doit être. Il y a maintenant 6 ans qu'il va et vient du matin au soir dans sa chambre, marmottant devant lui sans jamais rien faire de bien. La nuit, souvent, il se lève et marche à travers la maison. Il lui arrive aussi de sortir dans la rue. Une fois ou l'autre, il se promène avec le père, ou bien il noircit tous les morceaux de papier qui lui tombent sous la main. Il découvre de mots qui sont des non-sens, mais qui ont ça et là un semblant de sens infiniment étrange. J'examinais un rouleau de ces papiers. Je pus y découvrir des vers alcaïques tout à fait bien rythmés, dépourvus de signification. Je demandai que l'on me fît présent d'une de ces feuilles remplies de son écriture. Quand c'est intelligible, il parle toujours de souffrance, d'Édipe, de la Grèce. Nous prîmes congé. En descendant l'escalier par la porte ouverte, nous l'avons vu encore une fois, arpentant sa chambre à pas pressés. Un frisson d'horreur me parcourait. Je pensais aux fauves qui, dans leur cage, vont d'un côté à l'autre. Plein de stupeur, nous sortîmes en courant de la maison. Fragment. À Neufern. Cœur fraternel, je viens vers toi, pareil au matin humide. Joyeusement comme le calice des fleurs tendres, ouvre-toi. Tu reçois un ciel, le nuage doré de l'enchantement, ruisselle en bas, en sons amis, en sons rapides. Ami, je ne me connais pas, je ne connais jamais l'homme, et maintenant fais honte à l'esprit toute pensée. comme oiseau lentement passe. Il regarde en avant le prince et fraîchement souffle à sa poitrine les événements. Quand il se fait autour de lui silence et haut dans l'air, mais en bas très brillant, pour lui s'étend le fond de terre. Et sont avec lui, pour la première fois recherchant la victoire, les jeunes. Mais lui, il se contente du battement des ailes. Le chevreuil. Le roc est bon pour pâturer, et le sec pour boire, aussi l'humide pour manger, si quelqu'un veut se loger, que ce soit dans l'escalier. Et là où la cabane penche, dans l'eau, arrête-toi là. Et ce que tu aimes, c'est respirer. Celui qui, pendant le jour, produit la respiration, il la retrouve quand il dort, car où les yeux sont fermés, car où les pieds sont liés, là tu le retrouveras, car là tu reconnais. Construire aimerait, et nouvellement élever de Thésée le temple et les stades, et où Périclès habitait. Mais il manque l'argent, car on a trop dépensé aujourd'hui. Des hôtes avais-je invités et assis étions ensemble. Mais en des huttes habite l'homme et se cache dans un honteux vêtement, car plus il est intérieur, plus précautionneuse aussi, et qu'il conserve l'esprit, comme la prêtresse, la flamme sainte, c'est là sa raison. Et c'est pourquoi il a le libre arbitre et toute puissance et art de manquer ou d'accomplir le plus terrible des biens, la parole à l'homme donné, lui semblable au Dieu, afin que créant, détruisant et disparaissant et revenant à l'éternellement vivante, à la maîtresse et la mère, il prouve ce qu'il a hérité, ce qu'il a appris d'elle, sa chose très divine, le tout conservant amour. Votre Majesté. Essai de Veblinger, 1830. Il appelle les gens tantôt Votre Majesté, tantôt Votre Sainteté, tantôt Baron, tantôt Mon Père. Il ne faut pas oublier qu'il était à la cour quand il devint fou tout à fait, et que la fierté et la vanité y sont peut-être pour quelque chose, de même que sa volonté très marquée de tenir chacun à une distance infranchissable. Moi, monsieur, je ne réponds plus au même nom. Je m'appelle maintenant Killalusimeno. Oui, Votre Majesté, c'est bien ce que vous dites, c'est ce que vous prétendez. Il ne m'arrivera rien. Biographie de Schwab, 1846. Le nom de Hölderlin qu'il acceptait encore du temps de Veblinger, il ne voulait absolument plus le reconnaître par la suite. Il se nommait lui-même Buonarroti, ou Scartanelli, et se faisait donner le titre de bibliothécaire. Je le priai un jour d'écrire sous quelques-uns de ses poèmes le nom de Hölderlin. Cela le rendit furieux. Il courait de long en large dans la chambre, jetait sa chaise d'un coin à l'autre et criait « Je ne porte pas ce nom, je m'appelle Scartanelli !» Et en dépit de sa colère, il inscrivait Scartanelli sous les poèmes. La fois suivante, quand j'allais le voir, il avait oublié la colère. On ne pouvait lui demander son âge. À Veblinger qui lui posait la question, il répondit un jour en souriant, « 17 ans, monsieur le baron. » Poésie des derniers temps. Le cimetière. Silencieux endroit qui verdoie de jeunes herbes, où dorment hommes et femmes, où les croix sont debout, où du dehors conduisent, arrivent les amis, où brillantes d'un vert clair sont les fenêtres. Lorsque brille sur toi la lueur du haut ciel de midi, quand le printemps souvent y demeure, quand un immatériel nuage là, gris et humide, et doucement le jour avec beauté s'enfuit, quel silence n'est pas sur la grise muraille, par-dessus quoi un arbre pente avec des fruits. Avec un noir mouillé de rosée, feuillage de deuil, les fruits pourtant sont joliment pressés. dans l'église est une obscure tranquillité, et l'autel est aussi dans cette nuit petit. Pourtant, il y a là quelques belles choses, mais sur les champs, maintes cigales chantent en été. Là, si quelqu'un entend les sermons du curé, tandis que la foule des amis se tient auprès qui sont avec le mort, quelle vie personnelle et quel esprit pieux sans être dérangé. L'automne. Les légendes qui désormais quittent la terre de l'esprit, qui a été et qui revient, se tournent vers l'humanité. Nous apprenons beaucoup du temps qui vite se dévore. L'image du passé n'est pas abandonnée de la nature, et ainsi qu'en pâlissent les hauts jours de l'été, l'automne arrive à terre, et l'esprit des voyants se retrouve en le ciel. En peu de temps, beaucoup de choses ont changé. Le paysan qui à la charrue s'est montré voit comme vers sa joyeuse fin l'année se penche. Le jour de l'homme en ses images s'accomplit. La rondeur de la terre, de rochers garnis, n'est point comme le nuage qui fond le soir, mais elle se fait voir avec un jour en or, et la perfection est sans une plainte. Le printemps. Le soleil brille et la campagne est florissante. Riche de floraisons tièdes viennent les jours. Le soir fleurit en outre et de clairs jours descendent du ciel, de l'endroit où se forment les jours. L'année paraît avec ses temps et ses saisons comme une gloire où seront répandues les fêtes. Avec un nouveau but, l'œuvre humaine reprend. Tels sont les signes, les miracles manifestes. L'été. Les jours passent avec les bruits des tendres airs quand ils échangent les beaux champs et les nuages. La fin du val atteint à la nuit des montagnes où les vagues du fleuve se sont engouffrées. Et l'ombre des forêts répandues alentour regarde vers les fonds où coule le ruisseau. On voit l'image du lointain passé dans l'heure quand l'homme s'est trouvé pour cette âme intérieure. L'hiver 1842. Quand sont passées et désormais inaperçues les vues de la saison, c'est la durée d'hiver. Les champs sont vides, l'aspect semble plus adouci, le vent souffle alentour et les chutes de pluie. C'est la fin de l'année, comme un jour de repos, pareil au ton d'une question qu'il s'accomplisse. Puis, pareil du printemps, le devenir nouveau. Et tu brilles sur terre, beauté de la nature. Avec humilité, Scardanelli, 24 avril 1049. Lettre de Lotte Zimmer, fille du menuisier. Très honoré, monsieur le conseiller à la cour, j'ai l'honneur de vous annoncer la bien triste nouvelle de la mort de monsieur, votre frère bien-aimé, qui s'est éteint sans douleur. Depuis quelques jours, il souffrait d'un catarrhe et nous avions remarqué qu'il était plus faible que de coutume. Aussi suis-je allé chez le professeur Gmelin qui me donna une médecine pour lui. Le soir, il avait encore joué du piano et il vint souper avec nous. Ensuite, il alla se coucher, mais il fut obligé de se relever aussitôt et il vint me dire qu'il ne pouvait rester au lit tant il avait peur. Alors je tâchais de le calmer et je ne le quittais plus. Après quelques minutes, il reprit de nouveau sa médecine, mais la peur ne faisait qu'augmenter. Et le père était aussi auprès de lui, ainsi qu'un autre monsieur qui se préparait à veiller avec moi. Mais voilà qu'il mourut, tout doucement, pour ainsi dire sans agonie. Ma mère était aussi à côté de lui. En vérité, aucun de nous ne supposait qu'il allait mourir. Nous étions si bouleversés que ce nous fut impossible de pleurer. Et cependant, on doit remercier mille et mille fois le Seigneur de ce qu'il n'a pas connu le lit de douleur, et que parmi les milliers de gens qui meurent dans la souffrance, il a été donné à votre frère bien-aimé de mourir aussi tranquillement. Dans l'espoir de vous voir ou de recevoir des instructions, etc. Votre toute dévouée, Lotte Zimmer, Tübingen, le 7 juin 1843, à minuit.
C'était Folie et génie par Pierre-Jean Jouve.
Cette émission a été diffusée la première fois le 23 octobre 1951 sur la chaîne nationale. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.